7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que je vous retrouve ce lundi 20 octobre. Et pour toute la semaine, cette année, on fête les 10 ans du Salone del Gusto e Terra Madre, deux événements de l'organisation internationale Slow Food. Ce salon du goût et cette conférence Terra Madre constituent la plus grande exposition au monde consacrée à l'alimentation et au vin et permettent aux visiteurs de découvrir les terroirs du monde présentés par de petits producteurs. L'organisation Slow Food est née en 1989 et a dit non, non à la fast-food et à son pendant, la fast-life, comprenez le refus d'une alimentation industrialisée au mépris des rythmes, les nôtres et des saisons. Carlo Petrini, son fondateur, et ses acolytes proposent en lieu et place une alimentation plus lente, plus saine et qui fasse honneur au terroir, aux productions locales. Tout cela est bel et bon, mais passer au slow food dans un monde qui va toujours plus vite, est-ce vraiment possible? Pouvons-nous vraiment nous passer de fast-food? Et par fast-food, j'entends pas seulement les lieux de restauration rapide, les voisins, mais aussi toutes ces propositions censées nous faire gagner du temps et acheter en grande quantité. Tablettes de cuisson aromatiques, viande prédécoupée et nettoyée, plats préparés. S'il est facile de comprendre l'intérêt de consommer local, est-ce toujours possible? Et si oui, à quel prix? La fast-food nous ferait perdre le sens des saisons, du goût et en plus occasionnerait des gâchis immenses. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chaque année, 1,2 million tonnes de nourriture terminent dans les poubelles des ménages français. Certains avancent des chiffres bien plus lourds et parlent même de 10 millions de tonnes. Face à cette situation, la riposte s'est organisée, les voisins, et vous verrez que la mobilisation est à la fois locale et internationale. Quelques représentants de ces mouvements sont avec nous aujourd'hui. Bastien Beaufort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'un des conviviums, des deux conviviums slow food que compte Paris. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est un convivium slow food. Vous dirigez donc celui de Bastille dans le 12e arrondissement. Merci d'être là. Benjamin Stock, bonjour.
Bonjour.
De La Ruche qui dit oui. La Ruche qui dit oui propose aux consommateurs de se regrouper pour acheter directement à des producteurs près de chez eux, une transaction gagnant-gagnant, pas de marge à verser aux distributeurs pour les producteurs et puis des produits frais pour les consommateurs, ce qui tout de même a un coût, nous en parlerons tout à l'heure. On pourrait penser que les pays non européens ne sont pas concernés par le fast-food, il n'en est rien, comme nous le dira sans doute tout à l'heure Salimata Ouad. Salimata Ouad est coordinatrice de la Compagnie du Bien Manger, une plateforme d'association qui se préoccupe justement d'éduquer au goût et au bien manger. Salimata Ouad sera avec nous tout à l'heure en duplex depuis Dakar. Et parce que cette résistance à l'accélération du temps est un signe des temps, Jean-Baptiste Noé, historien de l'alimentation, nous apportera ses lumières. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes rédacteur à la revue Conflit et vous préparez, entre autres choses, un livre sur la géopolitique du vin.
Exactement.
Les présentations sont faites, les voisins, ne manquent plus que vous. Chez vous, ça se passe comment? Êtes-vous fast food, slow food, un peu des deux? Prenez-vous encore le temps de cuisiner pour votre famille? Faites-vous attention à la provenance de ce que vous achetez? Consommez-vous local? Ou êtes-vous fan des produits importés? Dites-nous tout, où que vous soyez. Un seul numéro pour nous joindre, 33 1 84 22 71 71. Jean-Baptiste Noé, cette résistance à une industrialisation forcenée, forcée de nos assiettes, c'est un peu David contre Goliath, non? En France, par exemple, l'industrie agroalimentaire est la première industrie?
Oui, elle joue un rôle très important au niveau économique. Moi, j'y vois un phénomène qui est lié à deux choses. D'abord, pendant des siècles, la première question, c'était manger. Et il ne faut pas oublier qu'en Europe, on a eu des famines, je pense notamment à l'Irlande, avec des gens qui sont morts de faim. Donc aujourd'hui, au moins en Europe, ça a été éradiqué. Et de par le monde, c'est en train aussi de reculer. Et maintenant, la deuxième question, c'est plus manger, mais c'est manger bien. C'est un peu une deuxième phase, parce qu'on se rend compte que manger mal, ça peut générer des maladies, ça, l'obésité notamment, ça peut détruire également les paysages, ça détruit et ça pose des problèmes écologiques. Ce n'est pas forcément bon non plus pour l'économie. Et donc, on est dans ce deuxième stade qui est effectivement de mieux manger et de manger des produits qui soient sains.
D'accord.
Et puis, il y a, je pense également, le rapport à la mondialisation, qui change beaucoup de choses. On est de plus en plus en contact avec le reste du monde, quoi qu'on soit. Et on a longtemps pensé que ça allait amener de l'uniformisation. D'une certaine manière, oui, il y a une uniformisation des goûts. Mais il y a une réaction aussi qui va être le retour à l'aspect terroir, à la redécouverte des produits locaux, qui n'est pas d'ailleurs forcément contradictoire. On peut à la fois manger mondialisé, on peut manger japonais ou chinois, et puis après être attentif à manger des produits locaux. C'est un peu un double phénomène. Et finalement, la mondialisation n'a pas éradiqué la culture locale, elle a permis de la redécouvrir.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au contraire, la mondialisation aurait fait de nous des consommateurs encore plus exigeants sur ce qui pousse autour de nous.
Oui, c'est que finalement, il y a face à une peur de l'uniformisation et de la perte de l'identité culinaire ou alimentaire, eh bien, certaines personnes se sont dit, redécouvrons ce qu'il y a autour de nous, redécouvrons notre culture alimentaire, y compris d'ailleurs dans les pratiques, pas simplement les aliments, mais également la manière de faire, dans les techniques. Et ça a amené ce mouvement qui a une trentaine d'années, le slow food, mais des racines aussi un peu plus larges, de redécouverte des produits locaux.
Alors justement, puisqu'on parle de slow food, Bastien Beaufort, je disais en présentation que vous dirigez l'un des deux conviviums parisiens. Qu'est-ce qu'un convivium slow food déjà ?
Les conviviums sont les antennes locales en fait du mouvement slow food international qui a son siège à Bra, dans le Piémont en Italie, là où est né le mouvement en fait il y a 25 ans, mais c'est des luttes plus anciennes de Carlo Petrini, le fondateur, qui est encore à la tête. Il y a 1500 conviviums dans à peu près 140 pays aujourd'hui, sur les 5 continents. Et ça fait partie d'un des réseaux forts de slow food auxquels on peut adhérer, notamment de manière bénévole, à l'année. C'est des prix assez honnêtes, je trouve.
C'est-à-dire
à Paris, pour les jeunes, c'est 20 euros par an, pour les moins de 35 ans, et c'est 50 euros l'année pour tout autre type de personne. Ce qui fait que, comparé à d'autres associations, je trouve ça assez intéressant. Et c'est comme ça qu'on rejoint en fait le réseau qui est effectivement global. Mais l'idée des conviviums, c'est d'agir localement. Donc nous, au Convivium Bastille, on travaille notamment sur le terroir francilien. On essaie de voir est-ce qu'il y en a un de terroir francilien.
Alors, est-ce qu'il y en a un ?
Eh ben, je pense qu'il y en a un. Jean-Baptiste pourra sans doute confirmer ça, ainsi que Benjamin. Il y en a un, même si c'est pas forcément d'une richesse absolue due à l'anthropisation, l'urbanisation qu'on connaît.
Mais enfin, il y a quand même des choses. Alors moi, j'ai quand même une question pour vous, Bastien Beaufort. Est-ce qu'on peut raisonnablement, vraiment aujourd'hui, se passer de l'industrie agroalimentaire ?
Difficilement. C'est-à-dire que nos choix de consommation sont aussi déterminés par l'agroalimentaire en amont qui, en fait, forme notre agriculture aujourd'hui en France. On sait que l'agriculture dite biologique est minoritaire, agroécologique, je n'en parle même pas. Il y a des mouvements comme le commerce équitable, le retour au contact direct aux producteurs qui, effectivement, sont des retours au terroir et aux origines. Donc, on a aujourd'hui la possibilité d'aller consommer de manière bonne, propre et juste, si je reprends un peu les noms...
Selon les termes de Carlo Petrini.
Voilà, du mouvement slow food, c'est-à-dire bon pour le plaisir, le goût, propre au niveau environnemental et juste au niveau socio-économique entre les producteurs et les consommateurs. En revanche, ça demande un effort. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'aller au supermarché juste à côté et acheter à peu près n'importe quoi.
Donc, on peut s'en passer, mais au prix d'un effort quasi surhumain.
Du temps.
Oui.
Et surtout, une consommation, j'allais dire, critique, voire politique. En réalité, slow food défend le terme de coproducteur et non pas de consommateur, qui vise en fait à inciter les citoyens que nous sommes à nous rapprocher de quelque manière que ce soit de nos producteurs. Et c'est là que je pense qu'il faut peut-être pas forcément toujours opposer les produits locaux aux produits qui viennent de très loin. L'important, c'est de réduire les intermédiaires et d'avoir un contact direct entre les producteurs et les consommateurs. C'est ainsi qu'on devient des coproducteurs.
Alors, l'un des meilleurs stages de coproduction qui existe, c'est justement ce salon Terra Madre, qui aura lieu du 24 au 27 octobre
du
prochain.
Du 23 au 27 octobre.
Du 23 au 27 octobre prochain. Vous pouvez nous en parler un peu ?
Alors, en fait, Terra Madre est né de l'idée qu'à la fin des années 90, Slow Food avait un réseau international assez conséquent pour une association née dans une petite ville italienne. Et Carlo Petrini a eu l'idée de réunir ce réseau en un lieu et en un même moment. Ils ont fait un peu le tour du monde et ils se sont rendu compte qu'il y avait à peu près 5000 personnes qui pouvaient être déléguées, invitées par Slow Food International et réunies à Turin. Ces 5000 personnes sont en fait composées par des communautés de la nourriture, qui sont souvent des petits paysans qui produisent des aliments exceptionnels.
Ce peuvent être aussi des pêcheurs.
Des pêcheurs, des artisans, des éleveurs, des peuples nomades, des agriculteurs, des maraîchers. Vous avez tout type, tous les métiers de l'alimentation, la gastronomie au sens de Brillat-Savarin est vraiment représentée dans cette délégation globale de slow food. Donc 1500 petits producteurs du monde entier, 1000 chefs gastronomiques beaucoup d'entre eux étoilés, dans cette idée de faire un lien en fait entre les chefs et les petits producteurs qui font des aliments exceptionnels, des universitaires, pour leur position critique qu'ils peuvent avoir sur l'histoire, la géographie de l'alimentation.
Slow Food a d'ailleurs créé une université du goût.
L'université des sciences gastronomiques, absolument, tout à fait, à Polenzo, à côté de Bra, qui forme chaque année près de 1000 étudiants qui viennent de 90 pays. C'est extrêmement international. Et enfin, les derniers délégués qui prennent de plus en plus de place dans le mouvement, ce sont les jeunes. Et Slow Food laisse la place maintenant au Slow Food Youth Network, qui en fait réunit aujourd'hui un réseau de jeunes dans 90 pays du monde. Il va y avoir 500 délégués jeunes à cette édition de Terra Madre, et le Slow Food Youth Network est notamment connu dans le monde pour avoir lancé le mouvement des Disco Soupes, qui sont des événements festifs et conviviaux, qui ont pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'on connaît bien en France parce que ça a pris une ampleur assez nationale forte.
Et dont nous parlerons tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Nous avons même un émissaire qui a assisté à une Disco Soupe et qui nous en a rapporté des sons. Mais tout de suite, 7 milliards de voisins, consommateurs et acteurs. Quels consommateurs êtes-vous, les voisins? Que pensez-vous de ce mouvement Slow Food? Appelez-nous, dites-nous, 33 84 22 71 71. Tout de suite, c'est une chanson douce, celle des Luscious, ça s'appelle « Two of Us on the Run ».
For far too long. Now we pass so many people on the road. They could have come along, I wish they'd been told it. They may call it a shot in the dark. From what we know, it's not unheard of. And we'll
dans 7 milliards de voisins, Two of Us on the Run. Les voisins, je vous ai présenté trois de nos invités, vous en avez entendu deux. Eh bien, nous avons été rejoints, sachez-le, par Salima Tawad. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Dakar et vous vous occupez de la compagnie du bien manger. Alors, qui sont ces compagnons du bien manger dont vous vous occupez?
Alors, bon. La compagnie du bien manger, c'est une initiative qui est mise en place pour pouvoir promouvoir les produits du terroir, qui peut faire connaître les recettes traditionnelles cuisinées d'une manière diététique, et puis aussi faire des créations. Donc, ce qui nous intéresse, c'est à la fois des études, donc un aspect académique, c'est aussi des dégustations. C'est aussi l'éducation à l'alimentation. Donc voilà, donc moi je suis à la fois universitaire, en train de travailler sur monter un master avec l'Université de Dakar, le département de géographie sur les cultures alimentaires, en même temps que, à titre personnel, dans la compagnie, avec d'autres personnes, on s'occupe de soutenir une prise de conscience de l'importance de réfléchir à ce qu'on mange en intégrant les produits locaux. Parce que je pense que c'est très très important. qui est un débouché pour ces produits, à la fois des produits de l'agriculture, c'est de l'agriculture, et d'autres qui sont des produits naturels, donc qui sont des produits de cueillette. Voilà, et donc qui ont un intérêt nutritionnel et gustatif très important. Voilà, donc en faisant à la fois, en étant moi-même cuisinière et en utilisant ces produits, en mettant en place, enfin, en créant de nouveaux produits, de nouveaux plats. Donc je suis intéressée vraiment d'une manière très transversale.
Et alors quel accueil, Salima Tawad, vous ont fait les Sénégalais? Parce que ce pays, le Sénégal, est un pays de grande gastronomie, riche, variée. Est-ce que vous avez eu un accueil plutôt positif, intéressé, ou bien les gens ont été un peu surpris, au moins au début?
Bon, je pense que c'était plutôt intéressé. Ils étaient surpris que moi je fasse ça, que je fasse la cuisine. Alors,
pourquoi? Parce qu'on vous voit comme une intellectuelle et donc déconnectée des réalités terrestres.
Voilà, rouler des pâtes, abaisser des pâtes et couper des oignons, c'est pas...
On ne vous imagine pas en train de fabriquer des pastels, d'accord.
Exactement. Et mettre au point des produits non plus, ça fait très apprenti sorcier, mais voilà. Donc en fait, la cuisine sénégalaise, oui, qui revient d'ailleurs à une cuisine essentiellement urbaine, ce qu'on appelle la cuisine sénégalaise d'aujourd'hui, c'est une cuisine urbaine. Et d'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup appauvri, elle est beaucoup plus riche que ça, si on considère les cuisines régionales. Et donc on travaille pour essayer de faire connaître les cuisines régionales, avec les plats traditionnels. Bon, on peut essayer d'améliorer, de rendre un peu plus équilibré, mais en respectant un petit peu l'esprit du plat. Donc, on pense que c'est très important parce que les Sénégalais, en même temps, mangent très, très mal. Je veux dire qu'on est très bien classés et malheureusement tristement classés pour certaines affections, notamment en termes de maladies métaboliques. Nous mangeons de plus en plus déséquilibrés en ville et les villes sont le modèle des campagnes. Donc, oui. Vous voyez que la tendance est à ce que ça se généralise. Voilà. Alors qu'on a de très bons produits et on a... On a mis au point des saveurs très intéressantes, mais qui pourraient être rendues absolument plus diététiques, si je puis dire, tout en gardant un caractère gastronomique, fin, intéressant gustativement, etc.
Bon, alors restez avec nous, Salima Tawad. J'espère que vous tenterez de nous expliquer, on tentera de comprendre ensemble comment on est parti d'une gastronomie riche en saveurs à un appauvrissement, sans finalement que le grand groupe ne s'en rende compte véritablement. Benjamin Stock, les propos de Salima Tawad doivent vous toucher, vous qui êtes de La Ruche qui dit oui. Une organisation très particulière qui justement promeut aussi les goûts des terroirs, l'approvisionnement autour de soi.
Alors nous, c'est plus que le promouvoir, en fait, on fournit aux gens un outil qui va leur permettre effectivement de s'approvisionner directement auprès des artisans et des agriculteurs locaux. Donc en fait, ce que nous on appelle une ruche, c'est pas une ruche avec des abeilles, hein, c'est une communauté d'acheteurs. En France aujourd'hui, il y en a 600. Hein. La première s'est ouverte il y a 3 ans.
En 2011, oui.
En 2011. Et donc à la tête de chaque communauté, on trouve un volontaire. En fait, c'est un citoyen ordinaire qui va décider donc d'apporter un peu de vie à son quartier ou à son village. Il va recruter autour de lui des membres. Et puis il va aller dans la campagne aux alentours pour trouver des producteurs qui accepteront de livrer sa ruche. Et après, nous, ce qu'on fournit, donc le site internet, hein, laruchequidioui.fr, c'est un outil pour mettre ces gens-là en relation et leur permettre en fait d'organiser des sortes de mini-marchés éphémères qui vont avoir lieu toutes les semaines ou toutes les deux semaines où les producteurs pourront remettre les produits en main propre aux clients.
Donc, non seulement les clients ont des produits, mais en plus, ils peuvent en parler, ils peuvent échanger des recettes, savoir comment les produits qu'ils achètent ont été produits.
Bah, c'est tout l'intérêt de la vente directe, hein, c'est que vous voyez le visage de celui qui produit votre alimentation. Donc vous pouvez lui faire des commentaires, l'accompagner aussi dans l'évolution de ses offres, lui dire tiens j'aimerais bien que tu fasses une confiture avec ceci ou que dans tes saucisses il y ait moins de sel. Disons que les gens reprennent en main leur alimentation et de plus en plus deviennent acteurs parce que plus on en parle, plus évidemment on a envie d'agir et pas on se contente pas seulement de mettre un petit billet dans la machine de façon passive quoi.
Et s'éloigner prestement pour courir vers la maison à l'air du toujours plus vite. Comment se nourrir sainement en respectant notre environnement? Ce sont ces questions et toutes les vôtres, les voisins, que nous nous posons aujourd'hui avec nos quatre invités. Bastien Beaufort de Slow Food, Salima Tawad et les autres. On se retrouve tout à l'heure.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à 7 milliards de voisins et nous nous penchons aujourd'hui, les voisins, sur les résistances à l'industrialisation de nos assiettes avec Benjamin Stock de La Ruche qui dit oui, Bastien Beaufort de Slow Food France, Jean-Baptiste Noé, historien de l'alimentation et Salima Tawad de la Compagnie du Bien Manger qui est avec nous en duplex depuis Dakar. Et puis il y a aussi vos réactions, les voisins, vous réagissez sur la page Facebook de l'émission mais également au standard 33 1 84 22 71 71 comme tout de suite Mamie qui nous appelle depuis Bamako, au Mali. Bonjour, Mamie.
Bonjour, les voisins.
Vous êtes les bienvenus, Mamie. Comment ça va à Bamako?
Ça va très bien. Je salue toute l'équipe de RFI voisins.
Qui vous salue qui en retour.
Qui fait une très belle édition, vraiment.
Merci.
Alors, moi, j'appelle donc par rapport à Bamako, par rapport à nos produits de jardin. L'alimentation à Bamako, elle est mauvaise. Et elle est peu, parce qu'on n'arrive pas à manger trois fois par jour et la qualité, elle laisse à désirer.
Donc, vous rejoignez le constat de Salima Tawad tout à l'heure. Elle nous disait à peu près la même chose pour Dakar, finalement.
Ah oui. À Bamako, moi, je crois que c'est plus inquiétant parce que les produits du jardin, Bamako, la ceinture jardinière autour de Bamako est vraiment une activité qui ne marche que sur des produits et sur des engrais chimiques. Nous sommes envahis de tous côtés par les produits issus des engrais chimiques. Des produits qui se conservent très peu. Ça se détériore à la moindre conservation si ce n'est pas sous le foie. Mm-hmm. La pomme de terre, tous les autres produits. Quand vous les goûtez, on sent même la potasse et l'urée là-dedans.
D'accord. Et alors vous, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre, si vous luttez contre?
Bon, un peu de sensibilisation. Moi, pour que ma famille puisse échapper à cet état de fait, j'ai entrepris dans ma maison, j'ai une petite cour, j'ai entrepris un jardinage à partir de produits biologiques, uniquement des engrais organiques, des feuilles vertes et des déchets des animaux. Et ça me donne des produits très bons à goûter.
Et comment réagit votre entourage, ma amie?
Bon, pour le moment, l'entourage, je ne l'ai pas intéressé, mais ma femme apprécie quand même tout ce que je fais et je vous assure que ça donne de très bons produits qui conservent longtemps, qui ont un très bon goût. Et je sens que ça agit un peu sur la santé de moi-même et puis de ma famille.
Merci beaucoup pour ce beau témoignage.
Voilà. Et si l'équipe de RFI voisin est prête, je l'invite à venir faire un tour chez nous ici, parce que j'ai déjà entrepris le jardinage.
Oui.
Qui marche à partir d'octobre ici. Octobre, novembre, décembre et janvier, ça marche très bien. Et moi, j'ai mon petit jardin qui est inondé de produits.
Vous savez ce que je vous propose, ma amie? Prenez-nous des photos de ce que vous cultivez et envoyez-les-nous, postez-les-nous sur la page Facebook de 7 milliards de voisins. Faites-nous saliver déjà à distance.
Je vais tenter.
Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et belle journée à vous à Bamako.
Bon, merci beaucoup.
Faites comme ma amie, les voisins appelés, témoignez de comment vous vivez votre alimentation, comment vous vous nourrissez, plutôt slow, on l'aura compris pour ma amie, ou si vous êtes fast food, dites-nous aussi comment et pourquoi ça se passe de cette manière. Je me tourne vers vous, Bastien Beaufort, parce que je sais que le mouvement slow food agit aussi un peu partout dans le monde pour aider les populations locales à retrouver les goûts premiers en se passant des engrais.
Tout à fait. Et je rebondis du coup sur la remarque très juste de Jean-Baptiste de tout à l'heure qui nous explique que...
Jean-Baptiste Noé, historien de l'alimentation, je le répète pour ceux qui nous auraient attrapés en cours.
Voilà, qui nous explique qu'historiquement il y a eu des grandes famines et qu'aujourd'hui on est passé de l'injonction de manger à bien manger. Ça, c'est valide, je pense, pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, l'Occident. On va aller faire une généralisation. C'est pas encore valide pour tout le monde dans le monde. Et il y a encore 40 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim, d'ailleurs, en Union européenne. Donc, l'objectif d'une association comme la nôtre est celle d'une nourriture bonne, propre et juste pour tous. Et effectivement...
Les riches comme les pauvres.
Pour tout le monde. Et effectivement, si le manifeste de Slow Food a été signé en 89 pour défendre le droit au plaisir, en commençant par la lenteur... via la table, eh bien pour avoir ce plaisir, il faut d'abord remplir le besoin de se nourrir. C'est pour ça qu'on voyait aujourd'hui qu'il faut à peu près 2500 calories pour une personne manger trois fois par jour, vivre bien. On sait qu'on en produit à peu près 4500. C'est ça la raison du gaspillage. On a à peu près 2000 calories qui sont complètement gaspillés par personne sur Terre aujourd'hui qui font ce gaspillage alimentaire révoltant. Et donc j'invite ma amie nous a bien expliqué ça, qu'on avait à la fois de la malbouffe qui arrivait au Mali, mais en même temps qu'il y avait des gens qui avaient faim, qui avaient des carences alimentaires. Oui. Donc là il y a un double mouvement qui est très très dur, je pense, si on veut reprendre le contrôle sur notre alimentation. Mais du coup j'invite ma amie à se relier au réseau Slow Food qui grandit en Afrique, notamment à travers les jardins potagers. Il y a 1500 jardins potagers qui ont été créés et qui sont en train de faire un vrai réseau africain de slow food. L'objectif, c'est 10 000. Donc, les auditeurs ainsi que tous ceux qui sont intéressés peuvent se rapprocher de slow food pour rentrer dans le réseau.
Voilà, le message est passé. On retourne au standard de 7 milliards de voisins. Et c'est Manuela qui est avec nous depuis Yaoundé. Bonjour Manuela.
Allô. Bonjour Anastasie.
Comment allez-vous Manuela?
Allô.
Oui, je vous entends très bien.
Très bien, merci, et vous-même?
Ça va très bien,
oui,
je suis ravie de, ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes plutôt slow food ou fast food, Manuela?
Je dirais slow food.
Oui. Et est-ce que c'est un cas, votre cas est général à Yaoundé ou c'est plutôt votre éducation qui veut ça?
Non, je dirais que c'est général parce que... on n'a pas beaucoup de difficultés à avoir des produits. Nous avons de très grands marchés où nous pouvons faire, faire nos achats sans souci.
Donc vous avez beaucoup de choix.
Que ce soit... Voilà. Voilà. Vous avez des fruits. D'ailleurs, moi, j'ai la chance d'habiter entre deux marchés. Le marché des fruits et un grand marché où vous trouvez vraiment tout, de tout ce que vous voudrez.
Du coup, Manuela, est-ce que vous diriez que ce mouvement slow food est plutôt adapté pour l'Occident et que ça n'a au fond pas vraiment touché l'Afrique, ou bien vous en voyez l'intérêt quand même?
J'en vois l'intérêt quand même, mais je dirais que c'est chez nous, je vais dire que c'est un peu la règle, quoi. Mais pas vous, et pas vous, il n'y en a pas vraiment. C'est vrai que on trouve des petits restaurants. Que j'appellerai pas fast-food parce que ces restaurants vous proposent des repas que vous feriez chez vous.
Oui, ce sont des maquis, voilà, oui, avec une maman qui cuisine, oui.
Voilà, exactement, vous voyez. Et donc, en général, c'est pour les travailleurs. Ceux qui ne peuvent pas retourner chez eux, par exemple, pour prendre leur pause à cause du trafic, etc. Donc, oui.
Mais
voilà.
ce ne sont pas les produits qui sont proposés, ne sont pas transformés industriellement. C'est de la cuisine de ménage qui est vendue.
Exactement. D'accord. C'est exactement ça, oui. Donc je dirais que le slow food, ça s'adapte un peu. C'est vous en Occident qui devriez un peu plus adapter. On n'est pas vraiment fast food ici.
Merci Manuela pour votre témoignage.
Je vous en prie.
Belle journée à vous à Yaoundé.
Merci,
mère,
à vous.
Merci. Alors, on quitte le Cameroun et on va au Burkina Faso, messieurs, madame Ouad à Dakar, avec Ousmane. Bonjour.
Oui, bonjour, Anastasie.
Soyez le bienvenu, Ousmane.
Merci à vous aussi, en tout cas, de me donner l'opportunité de s'exprimer sur certains thèmes d'actualité et qui nous réconfortent de jour en jour.
Alors, dites-nous tout. Vous êtes slow food ou fast food, vous, Ousmane?
Je dirais que fast food, ça me va bien.
Ah oui?
Ah oui.
Et pourquoi?
Parce que il faut dire que dans ma famille, l'alimentation est devenue un régime assez habituel. Et nous avons, la famille en tout cas, a bénéficié de certaines alimentations de nos grands-parents et qui nous permettent aujourd'hui de vivre bien. Et dans cette alimentation, et surtout les mets traditionnels, quand on mange, on est bien assis, on est bien confortable.
D'accord,
et
donc ça, vous avez été élevé avec une cuisine traditionnelle, qu'on a pris le temps de cuisiner. Et vous, est-ce que c'est ce que vous cuisinez, vous aussi?
Oui, je cuisine, mais il faut dire que moi, aujourd'hui, avec la nouvelle tendance, la nouvelle génération, et la cuisine d'antan et la cuisine d'aujourd'hui n'est pas la même chose. Aujourd'hui, avec les cubes magie, quand on essaie de préparer, et se mettre à avec ces instruments, avec ces ingrédients, souvent ça n'a pas les mêmes goûts que ce que nos parents d'antan faisaient. mais quand cela tienne, sont des alimentations qui nous permettent quand même de d'avoir la résistance, d'avoir la bonne physique, et ça nous va bien.
Donc c'est ça vous permet d'aller surtout plus vite, quoi, avec pas besoin d'aller chercher les différents aromates, tout est réuni en quelques millimètres cubes et on le glisse dans un plat et en avant. J'aimerais avoir la réaction de Salimata Ouad quant à vos propos, Ousmane. Salimata Ouad, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Ousmane, qui visiblement est pris par le temps et qui sait apprécier hein, la cuisine traditionnelle locale, mais bon, qui n'a pas que ça à faire visiblement?
Bon, moi, je pense que utiliser le terme slow food, manger lentement, c'est peut-être des fois les aliments peuvent être cuisinés rapidement, mais être de qualité, alors qu'aujourd'hui, on peut faire une cuisine soi-disant traditionnelle, grand-mère, il y en a même qui nomment leur bouillon mamie, pour dire que c'est la cuisine de grand-mère, quand même, pour pas pousser le bouchon. Mais on peut parfaitement cuisiner des plats soi-disant traditionnels en escamotant la moitié de la recette et en mettant ces produits industriels dont on ne sait pas trop ce qu'ils contiennent. Donc, je pense que cette image d'une Afrique qui mange encore ses plats traditionnels avec des intrants connus, etc., qui sont les mêmes que ceux de grand-mère, c'est faux. Ce n'est pas parce que c'est cuisiné lentement et dans une cuisine mijotée que c'est forcément plus sain ou aussi sain que ça l'était dans le passé. Donc, moi, je fais un peu attention à tout ça. Et nous aussi, on a invité à la réunion de Slow Food, là, donc à ce salon du goût.
Oui.
Mais je pense que c'est important en Afrique aujourd'hui d'arrêter d'avoir une image un peu idéalisée qu'à la campagne, je dirais, dans le passé, les gens mangeaient peut-être des aliments dont on savait comment ils étaient produits, etc. Donc relativement simple.
Aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
C'est plus le cas. Bon, il y a la question de la sécurité sanitaire des aliments. On ne sait pas ce qu'on mange, même en ville. Même quand vous commencez une carotte, il se peut très bien qu'elle soit issue d'un champ et arrosée avec des eaux usées.
Oui, c'est un peu ce que nous disait ma amie tout à l'heure. On sent le goût des produits n'est pas le même. Effectivement, voilà. Mais alors quel conseil vous pouvez donner, Salimata?
Bon, moi je pense qu'aussi, il y a à la fois des choses qu'on peut faire à un niveau individuel,
oui.
Mais je pense que là, de plus en plus, il faut des réponses institutionnelles. Et pour ça, il faut que les citoyens prennent conscience et poussent leurs élus à mieux les protéger, à mieux les informer, parce que c'est très bien de faire ce que fait la ruche. Nous, on a essayé de faire un petit peu pareil sur une petite commune, essayer de pousser la mairie à faire attention à ce qui se mange sur la commune, à aider les familles à apprendre à cuisiner différemment, à manger mieux et à utiliser des produits de producteurs connus, qui pourraient être, par exemple, des producteurs
identifiés, oui.
Voilà, mais pour que ce soit à une échelle qui produise du changement, il n'est pas possible que ce ne soit pas institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités locales, nationales, s'impliquent. Vous voyez ?
D'accord. Donc c'est à la société civile de s'emparer de la question et d'obliger ses représentants à s'y intéresser.
Exactement. Et pas seulement de réglementer, mais de contrôler que la réglementation est respectée, mais en plus de donner aux gens la possibilité d'apprendre à cuisiner autrement, parce que c'est ce que les gens ne savent pas faire.
Et c'est vraisemblablement le problème, l'un des problèmes d'Ousmane, c'est que voilà, il faut que ça aille vite. On a deux trois idées comme ça en tête.
Une cuisine qui soit saine,
oui.
Avec des bons produits, avec une part pour les produits locaux, mais aussi une cuisine qui soit pratique et qui tienne compte du temps qu'effectivement les gens ont tous les jours pour cuisiner et du budget qu'ils ont aussi pour le faire.
On vous écoute avec un silence d'église dans le studio. Tout le monde a l'air tout à fait d'accord avec vous, Salimata Ouad. Je propose maintenant qu'on écoute ensemble le reportage d'Antoine Lalanne. Qui dit production dit déchets et l'industrie agroalimentaire n'y échappe pas. L'association Disco Soup propose depuis 2012 de cuisiner collectivement les rebuts et invendus des marchés. En 2013, une centaine de Disco Soup ont été organisées et ont permis de sauver 20 tonnes de fruits et légumes, et d'offrir 42 000 repas sous forme de soupe, salade ou smoothie. Samedi 11 octobre, sur la très passante place de la République à Paris, une disco-soupe était organisée pour accueillir les manifestants contre le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. On écoute.
Donc on va d'abord faire les carottes, pommes de terre, oignons, tout ce qui est à peu près dans ce temps de cuisson-là, et ce qui va dans la ratatouille. Après, on va pouvoir commencer à cuisiner.
Moi, je suis Mathieu, je suis bénévole dans l'association Disco Soupe. Aujourd'hui, on va faire une grande Disco Soupe, place de la République.
Et il commence à faire beau, ça s'est levé.
C'est royal. Disco Soupe au soleil, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie.
Alors, quel est le principe de Disco Soupe ?
Faire de la cuisine collective en musique, avec des produits, des fruits et légumes qu'on a récupérés dans des poubelles, sur la fin des marchés, donc ce qu'on appelle des invendus ou des rebuts. Et après, on invite les gens qui passent dans la rue à venir cuisiner avec nous. Et on distribue tout ça gratuitement aux gens qui sont là.
Et qui peut participer à une Disco Soupe ?
Tout le monde.
Quelqu'un qui passe dans la rue, il peut se joindre à vous et éplucher les légumes ?
Moi, quelqu'un qui passe dans la rue, je vais aller le chercher pour qu'il vienne cuisiner avec nous. Et moi, je veux des gens de tous les âges, de toutes les couleurs, de toutes les classes sociales, des chauves, des pas chauves, tout ce qu'on veut, quoi.
C'est des légumes qui allaient être jetés.
Ah bah oui, en plus. Moi, je travaille dans un lycée, c'est incroyable. On propose des pommes bio qui, des fois, ont des petites taches, des petites tavelures. Ben, les enfants ne les prennent pas. Ils vont prendre que les pommes brillantes qui ont subi des traitements. Il y a toute une éducation à refaire. Sensibiliser à ça pour former les enfants.
Ça, c'est ce que vous constatez au quotidien dans une cantine scolaire ?
Au quotidien. Donc, on est obligé de tout éplucher, de faire de la compote quand on a le temps avec tous ces fruits qui ne seront pas consommés. On sait qu'ils ne seront pas consommés. Si on n'en fait rien, ils iront à la poubelle.
C'est des fruits et des légumes qui ont été mis à la poubelle ?
Ouais.
Donc, ils sont impropres à la consommation ?
Alors, en fait, ils ne sont pas forcément impropres à la consommation. Par contre, ils sont impropres à la vente. On a habitué les consommateurs à avoir des fruits et légumes parfaits. Des tomates parfaites, rondes, qui ont toute la même forme, qui n'ont pas une tache noire, des carottes régulières, presque clonées, quoi. C'est de la photocopieuse de légumes, quoi, quelque part.
Alors là, c'est tout ce que vous avez récupéré pour la Disco Soupe d'aujourd'hui.
Donc des poires qui sont un petit peu abîmées, mais ça, quand on veut faire des jus de fruits, des compotes, ou même une salade de fruits, c'est parfait. On va avoir des carottes un petit peu abîmées aussi, mais ça, clairement, je pense qu'on va en récupérer 90%. Un tout petit peu molle, mais ça, des carottes molles, si on les fait tremper dans l'eau, elles récupèrent leur rigidité, si on veut les râper. Tout ce qui est là donne pas forcément envie, je dirais, au consommateur lambda, parce qu'il est habitué à avoir des choses parfaites. Mais justement, nous, on va lui démontrer que tout ça, on peut en faire des plats très très bons, très savoureux, et que peut-être il devrait réfléchir à deux fois avant de mettre ses vieilles carottes à la poubelle, quoi. Ce qui compte pour un légume ou un fruit, c'est qu'il soit bon à manger. Basta, quoi. Le but d'un système agricole, c'est de faire des produits de qualité, abordables et bons pour la santé et bons en goût. Et notre système actuel, il fait rien de ça, à part le abordable. C'est-à-dire que le seul critère de jugement de notre système, c'est est-ce que je peux acheter à manger, quoi. Aujourd'hui, on jette 30% de ce qu'on produit. Donc en fait, on produit 30% de trop. Donc la question de la faim dans le monde, c'est pas une question de quantité, quoi. On pourrait nourrir 10 milliards de personnes avec ce qu'on produit aujourd'hui. La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait de la nourriture qu'on produit ? Et là, aujourd'hui, on en jette un tiers. Donc ça, c'est complètement sidérant, quoi.
Mademoiselle, c'est quoi, à votre avis ? Du curcuma ?
À mon avis,
il y a de l'anis ?
Ouais, il y a de l'anis, c'est ça qui est particulier, je sais pas.
On va peut-être en rajouter là. Voilà. Voilà, c'est une soupe qui se prépare, qui mijote.
Avec ça, je pense qu'il y a une centaine d'assiettes, tranquille, quoi.
Et qu'est-ce qu'il y a dans cette bonne soupe ?
Là, c'est un mélange aubergine, navet et potiron.
Et on est place de la République, en plein centre de Paris. Il y a plein de voitures qui roulent autour de nous. Oui. Ça sent les pots d'échappement, sauf ici,
sauf
là,
ah bah oui,
à côté des fourneaux. Qu'est-ce que ça sent ?
Ça ressemble ô combien, de par l'odeur, à ces soupes que nous faisaient déjà nos grands-mères. Oui, dis-moi fond de sauce, vas-y.
Fond de sauce, poireau, oignon, curry, paprika, piment.
Voilà.
Parce qu'on n'avait pas d'ail.
Là, c'est les secrets du chef. Nous sommes les marmitons.
Et là, vous commencez à servir, je vois du monde qui arrive.
Ouais, la salade est prête. Et puis en fait, quand on reste un très longtemps au même endroit, on se rend compte que les gens qui ont faim, ils vont voir qu'il y a de la nourriture. Et donc de plus en plus, les gens ils viennent nous voir, est-ce que je peux me servir ? Est-ce que je peux me servir ? Est-ce que... Hein ? Et donc là, c'est le côté plus soupe populaire de la Disco Soupe, qui est de servir à manger aux gens qui en ont besoin vraiment, quoi, dans Paris, quoi.
Juste pour vous, monsieur, vous vous rendez compte la chance que vous avez ? Est-ce que vous pourrez nous rapporter le gobelet et les baguettes, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Bon appétit. Et là, c'est fini. Là, on essaye de racler un peu le fond de la gamelle, pouvoir offrir encore un ou deux gobelets.
Alors, elle était comment, cette salade de légumes impropres à la consommation ?
Elle était excellente.
Ah là, c'est le moment de la vaisselle.
Ouais, forcément, il y a un moment où il faut faire la vaisselle.
Faut tout nettoyer, ce qui a servi à éplucher.
Tout ça découpé, les verres, les baguettes. Après, à la fin, on finira par les casseroles qui ont peut-être accroché. Ce sont des choses qui arrivent. Et c'est ça qui est bien avec la Disco Soupe, c'est qu'on fait la vaisselle en musique avec plein de gens. On va discuter, on va danser, on va blaguer. Je n'ai pas les statistiques sur le nombre de couples qui se sont formés à Disco Soup, mais je suis sûr que c'est des chiffres très élevés. Parce que ça mélange les gens, parce que c'est une bonne ambiance, parce qu'on rigole, parce qu'on mélange la salade ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'huile, donc tout ça, ça crée des liens, quoi. Ah, les Prince, il n'y a que ça de vrai, quoi.
Voilà, merci à Antoine Lalanne pour ce reportage. Vous aurez compris que mélanger la salade peut créer des liens au-delà de ce qu'on peut imaginer. Bastien Beaufort, vous connaissez bien les Disco Soup, vous les avez lancés à Paris?
Oui, tout à fait. Je les ai lancés il y a 2 ans et demi avec plusieurs acolytes. Et en fait, on s'est inspiré des Berlinois de slow food jeunes en Allemagne qui faisaient les Schnippel Disco. Et l'effet boomerang a fait qu'en France, ça a tellement pris que c'est reparti à l'international via le réseau du Slow Foodious Network. Et aujourd'hui, il y a 15 pays sur 3 continents, pardon, qui ont organisé les Disco Soup, de la Corée au Kazakhstan, en passant par le Japon, le Brésil, Mexico, Israël et peut-être plus encore. Donc c'est vraiment un exemple là, d'événement de slow food, des jeunes, très simple à organiser, réplicable, festif, grand public et qui lutte en fait contre le gaspillage. Certes, on est dans l'éducation et la sensibilisation, mais je pense que là, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Il faut qu'on passe à la lutte contre le gaspillage. Et là, je rejoins tout à fait Salim Matawa qui dit que là, ce n'est pas les pratiques individuelles qui pourront faire le changement, c'est vraiment quelque chose de collectif. Voilà.
Jean-Baptiste Noé.
Oui, finalement, le thème fil directeur un peu de l'émission, c'est l'éducation. C'est à la fois l'éducation au goût et l'éducation à la cuisine. Et c'est un des problèmes, c'est que beaucoup de gens ne savent plus cuisiner. Et lorsqu'on parle du temps de cuisine, oui, ça prend du temps. Mais enfin, combien de temps passons-nous aussi à regarder la télévision? On peut rogner un peu et cuisiner. En plus, on peut écouter la radio en cuisine, on peut écouter RFI. Donc
quelle bonne
bien.
Idée.
Et la cuisine est aussi un lieu de convivialité. C'est la base de l'alimentation. On peut cuisiner avec son conjoint, avec ses enfants, avec des amis. Et il faut retrouver le sens de la cuisine qui n'est pas dément rébarbatif avant de manger, mais qui est une activité ludique, amusante, conviviale à part entière.
Salim Atawad, vous êtes toujours là?
Ah oui, je suis toujours là. Oui,
est-ce qu'on peut imaginer une disco soup à Dakar? Est-ce que vous pensez que ça prendrait un mouvement comme celui-là?
Écoutez, moi, j'ai participé à une d'entre elles, c'était à Helsinki l'année dernière. Je trouvais ça très bien, mais bon, je pense ici que tellement de gens ont un problème pour manger, oui. C'est ici, quand on analyse la structure des pertes, elle n'est pas au niveau des produits qui sont prêts à être consommés, elle est au niveau des récoltes. Donc, on n'a pas exactement les mêmes réalités. Ici, si vous faites ça, c'est clair que vous nourrissez les gens, quoi, tout simplement. Vous les nourrissez, parce que beaucoup de gens vont avoir faim, donc... On a le double fardeau, comme on dit, à la fois avoir faim et à la fois mal manger. Donc voilà, c'est peut-être ça que je vois. Mais je pense quand même que dans les villes, là avec le petit projet qu'on a au niveau des mairies, c'est pouvoir créer des petits jardins pour que les gens puissent cultiver ne serait-ce que quelques herbes, quelques petites tomates, pour prendre conscience que on mange des choses vivantes qui sont produites, qu'on a une idée de comment on les produit, et que ça nous rende plus attentifs à ce qu'on mange et à la question de manger. Manger, ça peut pas être... L'aliment n'est pas un bien ordinaire. Vraiment. Avant, il avait un caractère sacré.
Et vous avez envie qu'on y retourne un peu, j'ai l'impression.
Ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle de connaître qui produit, quoi on produit, donner le temps aux choses, qu'elles mûrissent, etc., bon, on en revient presque, en tout cas, à donner du respect à ce qu'on mange. Et donc, quelque part, le respect, c'est le début de la sacralisation. Et sacraliser aussi les moments où on est le partage de manger. Dans Compagnon, il y a ceux qui partagent le pain. Il y a aussi le côté compagnonnage artisan qui travaille bien.
Et être ensemble.
Il y a vraiment le partage.
Oui.
Voilà. Et alors, je pense que ça peut garder du lien familial, mais aussi social, dans les quartiers où les gens ne se connaissent pas beaucoup en ville, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire autour de manger.
Pour ceux qui nous écoutent et qui sont séduits par votre discours et qui voudraient devenir rejoindre les compagnons du bien manger et qui nous écoutent à Dakar, par exemple, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver?
Bon, ben, ils peuvent nous écrire sur notre adresse mail, cn.sali@gmail.com, C comme Caroline, B comme Binda, M comme Mamadou,
bon.
Point Sali,
fayly@gmail.com.
Merci infiniment à Salima Tawad. J'espère que vous nous redonnerez vos coordonnées. Nous les diffuserons bien évidemment aussi bien sur la page Facebook de l'émission que sur le site de RFI. Merci infiniment. Et alors Bastien Beaufort, donnez-nous un, alors déjà le salon Del Gusto Terra e Madre commence jeudi
prochain, donc on peut se retrouver là-bas à Turin pour ces 5 jours d'événements qui s'annoncent superbes.
Festifs.
Pour adhérer à Slow Food, slowfood.com, vous ensuite choisissez votre convivium local d'adhésion et ensuite si vous voulez organiser Disco Soup, discosoup.org.
Merci beaucoup Benjamin Stock. L'adresse du site.
Alors laruchequidioui.fr, ça existe pour l'instant surtout en France, mais il y a des petites ruches de test qui sont
lancées. Où ça ?
En Allemagne, en Angleterre, en Italie, ça commence tout doucement, et en Espagne aussi.
Très bien, merci, merci, on a bien pris note. Jean-Baptiste Noé, votre prochain projet, c'est donc...
Une boutique du vin, j'espère.
Pour l'année prochaine ?
Pour l'année prochaine, oui.
Et puis vous continuez d'être rédacteur...
Voilà, Revue Conflit, exactement.
À la Revue Conflit, merci infiniment à vous quatre. Merci également aux auditeurs, merci à l'équipe 7 milliards, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Jonas Mallet-Solartz, Ute Eckerfeld. Demain, les voisins, nous parlerons de la vie dans les camps de réfugiés. À demain, portez-vous bien.